Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Papa, maman, mon frère aîné, moi et pourquoi pas quelques autres encore, la vie familiale pour un enfant est à la fois une équation simple et une aventure incertaine. Car, faut-il le rappeler, le petit Dom n'a pas lui ses collègues de boulot, ses copains de foot, la bonne copine que l'on peut appeler, voire l'ami auprès de qui s'épancher. Petit, notre aventurier doit en même temps qu'il découvre la vie trouver sa place, son équilibre, son chemin de bonheur. Alors, pour aider nos têtes blondes, cette émission à hauteur d'enfant sur les relations au sein d'une fratrie, un éclairage pour les parents et un voyage dans le temps pour tous. Vite couple, vite famille, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et ce matin, Marie-Aude Binet, vous êtes toute seule, vous avez été abandonnée par votre compère, non je plaisante, Sébastien Dex s'est fait excuser, et il avait des bonnes raisons pour ça. Je rappelle, vous êtes conseillère conjugale et familiale, sexologue, conférencière et formatrice. Bonjour.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et vous intervenez à cette antenne pour faire des chroniques. Donc aujourd'hui, on va parler donc de la fratrie. Je me disais, c'est bien dans la ligne de Noël. Hein, d'essayer de voir le monde à hauteur d'enfant, ça tombe bien. Beaucoup de choses à raconter. Allez, par quoi commenceriez-vous, Marie-Aude Binet, qu'est-ce qui vous tiendrait le plus à cœur de dire en début de cette émission? Pour une fois, c'est vous qui allez faire la question et la réponse.
Ah, bon, merci Emmanuel. Je dirais qu'en fait, d'abord, nous avons tous été enfants. Vous l'avez très bien dit, et que du coup, ce dont on va parler, on va parler de nous. On va parler de la manière dont on a grandi, dont on a trouvé notre place. En fait, un enfant, tout son travail, c'est de construire son identité et trouver sa place. Et le premier lieu où il construit ça, c'est dans la famille. C'est au milieu de ses parents et... quelquefois de ses frères et sœurs, puisque tout le monde n'a pas de frères et sœurs, mais c'est aussi au milieu d'une famille élargie, avec des grands-parents, des cousins, des oncles et tantes. C'est aussi au milieu d'une vie sociale élargie que les parents amènent à la maison, avec des amis qui viennent. Donc c'est toute cette construction-là, toute cette découverte de la vie que fait l'enfant. Et suivant la place dans la fratrie, suivant la manière dont l'enfant se sent regardé, aimé, valorisé ou pas par les parents, il va se construire d'une manière différente. Et ce qu'on peut constater, je pense tous, c'est qu'on a beau avoir les mêmes parents, quand on est une fratrie au moins de deux, eh bien on va quand même pas prendre tout à fait les mêmes directions dans la vie et avoir la même façon de se comporter adulte. Et pourtant, l'éducation, a priori, a été la même. Et c'est ça qui reste toujours un point d'interrogation, un mystère, et qui pourtant est une réalité.
Et sinon, on devait justement essayer de se mettre à hauteur d'enfant, donc y compris pour soi, à vous entendre, évidemment. Que faut-il avoir en tête comme préalable? Je me disais que comme préalable, et puis vous me direz si justement c'est une bonne idée, et vous compléterez mon introduction. Quand je disais que quand on est enfant, enfin on oublie souvent quand on est parent que l'enfant lui n'a que ses parents et ses frères et sœurs globalement. Il a moins d'appui extérieur, il a moins de recours. Quel est un peu le, si vous deviez nous aider,
alors, l'enfant,
quel est un peu l'univers de l'enfant?
Oui, alors à hauteur d'enfant, mais en grandissant, il y a des choses qui changent. Parce que par exemple, l'enfant qui va chez sa nounou, il a une nounou comme autre référent adulte. L'enfant qui va à l'école, il a son maître ou sa maîtresse. L'enfant qui va faire du sport, il peut avoir son moniteur. Enfin, les enfants vont être entourés progressivement d'autres adultes que leurs parents. Donc ils vont avoir d'autres référents. Et certains vont s'en emparer, d'autres non. Il y en a qui vont créer de bonnes relations avec ces autres référents. Et puis, comme je disais, il y a la famille élargie, hein, au-delà des parents. Maintenant, l'enfant, oui, il découvre ce monde adulte. Alors, vous dites à hauteur d'enfant, et ça, c'est assez intéressant parce que, justement, quand on parle à un enfant ou quand on veut s'adresser à lui, on conseille aux adultes de se mettre à genoux, de se baisser pour être à hauteur de cet enfant. Puisque nous, on est grands, on est des géants. Et du coup, pour qu'il puisse se sentir considéré, se sentir compris, écouté, il a besoin qu'on le rejoigne à sa hauteur et qu'on voit le monde un peu comme lui. Il y a même des expériences qui ont été faites où on a construit des meubles proportionnellement pour les adultes, pour que les adultes voient tous les efforts physiques et psychologiques que l'enfant fait quand il doit monter sur une chaise, quand il a 2 ans par exemple.
J'avais entendu dire qu'on avait fait faire l'exercice à des GIs américains et qu'à la fin de la journée, ils étaient rincés.
Ils étaient épuisés, tout à fait. Donc c'est très très sportif. On sait qu'il y a toutes les connexions neuronales qui se font comme ça pendant la petite enfance et ils dépensent beaucoup d'énergie. On se demande d'ailleurs comment ils en ont encore à la fin de la journée, contrairement à nous. Et ils ont besoin de qu'on leur porte attention. Et en même temps, ils ont besoin aussi de sentir un cadre rassurant, sécurisant affectivement. Et en fait, l'enfant, il est à la recherche de ça. Donc, les préalables pour un enfant, c'est de se dire « qui est autour de moi, sur qui je peux compter ?»
Alors justement, commençons par la fratrie comme premier lieu de sociabilisation. Alors la vie de famille, tout simplement, mais aussi la fratrie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet ? Ça va de soi. J'ai cru comprendre que il y a une forme d'initiation aussi entre enfants. C'est-à-dire que celui qui est au-dessus vous introduit quelque part à la culture familiale et donc à une certaine sociabilisation déjà.
Oui, alors on parle du coup beaucoup du rôle de l'aîné qui va être un peu le modèle, celui qui ouvre le chemin pour ses frères et sœurs qui suivent. Mais ça peut se faire quelquefois, ça peut être le second ou un autre enfant qui va aussi ouvrir la voie, puisque suivant la personnalité que l'enfant a, il va agir et avoir une influence plus ou moins directe sur l'éducation parentale et sur la culture familiale. Parce qu'en fait, l'enfant, il arrive dans ce que les parents souhaitent créer comme culture familiale, comme ambiance, comme lignée éducative, puisqu'ils ont un projet éducatif. Et en fait, les enfants, chacun, l'un après l'autre, va venir faire bouger les lignes de ce projet-là. Et l'aîné va le faire déjà, mais le second aussi, le troisième, le quatrième, etc. Et tout ça, ça se remodèle au fur et à mesure. Et entre frères et sœurs, ils vont en effet s'entraider, alors, même à travers des chamailleries. Mais en tout cas, ils vont s'ouvrir les uns aux autres à ce qu'est l'autre, à ce qu'est la personne.
J'ai vu que Pierre Bourdieu, donc célèbre sociologue, utilisait une expression de métaphore de l'osmose. L'essentiel de l'héritage culturel se transmet en l'absence de toute action manifeste. Et osmose, on entend donc ça par l'introduction à une forme d'unité familiale, unité culturelle.
Tout à fait. Et l'enfant va créer spontanément, au départ, il va vouloir créer spontanément cette osmose. Même s'il y a de la jalousie, même si il peut y avoir des rivalités, il a besoin de sentir qu'il fait partie d'eux.
Donc c'est un mélange, on va dire, d'unité et de différenciation. En fait,
exactement. Et c'est ça qui est compliqué pour l'enfant. Il a besoin d'être aidé là-dedans parce qu'il ne veut pas être confondu à son frère ou à sa sœur. Mais en même temps, il ne veut pas être exclu de ce milieu dans lequel il grandit. Et ça, c'est suivant la personnalité de l'enfant, ça peut être plus ou moins fort.
Alors, est-ce que l'unité familiale va de soi ? J'ai trouvé des choses assez contradictoires sur ce sujet. Il y a une expression qui dit « frère de lait, frère d'armes ». Et en même temps, semble-t-il, cette unité, elle ne serait pas forcément donnée à en lire d'autres. C'est pas parce qu'on est... alors là, je ne retrouve pas de citation, mais c'est pas parce qu'on est du même sang que forcément l'unité va de soi. Alors, qu'est-ce qu'on... Ça paraît contradictoire.
Les liens biologiques... créer un lien qui est de fait, hein, voilà. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on se sente réellement en unité, c'est-à-dire en connexion à l'autre. On peut très bien, très rapidement se dire « qu'est-ce que je fais là ?» Il y a des enfants qui très tôt, et qui du coup le manifestent beaucoup à l'adolescence, mais qui peuvent le ressentir depuis tout petit en se disant « qu'est-ce que je fais dans cette famille ?» Je me sens trop différent, je n'ai pas l'impression de trouver ma place. Alors ça peut être par rapport à un autre frère ou à une autre sœur, ça peut être par rapport aux parents. En tout cas, oui, ça peut être vécu.
Mais il peut y avoir deux choses différentes, c'est-à-dire l'amour peut aller de soi et en même temps on peut se sentir différent. Alors,
exactement.
Si on revient juste à l'amour, est-ce que l'amour va de soi pour le coup
Alors l'amour ne va pas de soi.
Pour les frères et sœurs moins, c'est ça ?
Ce que je dis souvent, c'est que les parents, a priori, font le choix d'avoir des enfants, donc eux, ils sont appelés à aimer leurs enfants. Un enfant n'est pas obligé d'aimer ses parents, et il n'est pas obligé d'aimer ses frères et sœurs.
Et pourtant, naturellement, un enfant aime ses parents, non ?
Alors, naturellement,
quand c'est pas le cas, c'est
l'enfant, l'enfant est disposé à faire confiance et à donner sa confiance aux personnes qui l'entourent en premier, en proximité. Et du coup, il y a de l'amour qui se développe. Ce n'est pas une obligation, même dans la Bible, hein, c'est « tu honoreras ton père et ta mère ». Ce n'est pas marqué le mot « aimer ». Donc il y a le respect vis-à-vis de tout être humain, mais l'amour, c'est quelque chose qui peut se construire. Et il y a quand même pas mal de personnes qui peuvent dire « je n'aime pas mon frère et ma sœur » ou « je n'aime pas mes parents » tel que dans l'imaginaire, on se le représente. il peut y avoir de l'amour, mais c'est pas forcément celui qu'on idéalise. Donc ça se construit.
Enfin, là, vous parlez plutôt de l'âge adulte en l'occurrence, non ?
De l'âge adulte, mais ça s'est construit depuis petit en fait, ça. Et en fait, l'enfant apprend à aimer son papa et sa maman, apprend à aimer ses frères et sœurs en les découvrant tout simplement. C'est pour ça que la vie commune, elle n'est pas si simple que ça.
Donc ça veut dire que les parents doivent avoir en tête que quelque part, il faut qu'ils construisent cette relation d'amour avec les enfants. Elle n'est pas donnée. C'est pas parce qu'ils sont tout petits, qu'ils sont adorables et qu'ils sont toujours en train de vous demander que ça se construit, on va dire, de fait.
Oui, et c'est pas parce qu'ils sont frères et sœurs qu'obligatoirement ils vont s'accepter, s'aimer, que ce sera toujours idyllique. Ils peuvent avoir vraiment des difficultés à s'accepter entre frères et sœurs.
Parlons de l'aîné. Il y avait autrefois un droit d'aînesse. J'ai cru comprendre que ce droit d'aînesse n'était pas dû qu'au fait que ça permettait donc aux parents de transmettre l'héritage familial et de perdre, on va dire, moins de sous au passage, mais qu'il y avait une forme de rétribution psychologique au fait que l'aîné, lui, à un moment, n'a eu ses parents que pour lui et qu'un jour, il en est privé. Alors, ai-je bien lu ?
Alors, il y a l'enfant aîné a une place particulière, puisque c'est lui qui fait devenir parent le papa et la maman qui sont devant lui. Donc, il est un peu l'enfant roi par rapport à ça. Et il a besoin de sentir qu'il est vraiment très important. Et surtout, si justement donc, il y a des frères et sœurs et plusieurs qui viennent derrière lui, il peut vivre ça comme « on me prend ma place, j'étais l'enfant roi, j'avais papa et maman que pour moi ». Et il a besoin à un certain moment de ressentir ça à nouveau.
C'est-à-dire que c'est une compensation quelque part qu'on lui doit parce que...
Alors, est-ce que c'est pas une
il
dette.
Il fait le travail, c'est ça ou...
C'est pas une dette, mais en tout cas, lui peut ressentir une forme de... c'est grâce à moi que... Donc, il a besoin de se sentir valorisé. En tout cas, il y avait quand même, en dehors du côté financier, en effet, une valorisation de l'aîné par la transmission culturelle. Par exemple, les papiers de famille. Par exemple,
qu'est-ce que vous entendez par les papiers de famille ?
Alors, sur des familles plutôt bourgeoises ou plutôt aristocrates, on transmettait les papiers de famille à l'aîné. C'était lui qui était garant de cette culture familiale, de cette histoire familiale ancestrale et qui était chargé de transmettre. Il y a la transmission donc culturelle. Dans notre famille, c'est comme ça qu'on fait. Et on charge souvent l'aîné de cette culture familiale. Chez nous, c'est comme ça. Et tu es porteur de ça. Alors, ça peut être des valeurs de générosité, mais ça peut être des valeurs par rapport à la foi, ça peut être des valeurs... Voilà. Et on charge plus l'aîné, souvent, en effet, de cette transmission-là. Alors, il y a des aînés qui le portent très bien, et il y a des aînés qui le rejettent radicalement. Hein. C'est parce que ça peut être très lourd à porter, surtout si les frères et sœurs, justement, derrière... valorise l'aîné en disant « c'est toi qui ?» et qui se tourne tout le temps vers l'aîné et quelquefois même après la mort des parents en disant « c'est toi qui es notre chef de famille maintenant ?»
Moi j'ai lu cette expression, l'enjeu, si on passe au cadet, l'enjeu pour l'aîné c'est d'apprendre à faire une place à l'autre, à accepter l'existence du second, l'enjeu pour le cadet c'est de dépasser la culpabilité d'exister. Est-ce que vous nous expliquez ça ?
En effet, le cadet...
Il doit exprimer son droit à l'existence.
En tout cas, il doit faire sa place. Il doit faire sa place dans ce premier trio, là, papa, maman, l'enfant, et lui, il faut qu'il fasse une place. Alors, c'est souvent... il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais on voit souvent que les seconds, soit s'effacent, soit au contraire, sont très rebelles. C'est-à-dire qu'ils ont des très forts caractères pour être sûrs, justement, de marquer leur territoire face à cet aîné qui, de toute façon, a la place. Voilà, puisqu'il était le premier. Et du coup, on peut avoir des rivalités, souvent entre premier et second, très forte à cause de ça. Alors, ça va dépendre de l'écart d'âge qu'il y a. Ça va dépendre si c'est garçon-fille, etc. Mais il peut y avoir justement cette réalité-là qui s'installe parce que le second se dit « il faut que je trouve ma place » et le premier dit « faut pas que tu prennes la mienne ».
Mais il y a un moyen de désamorcer ça et d'éviter que votre enfant soit très effacé, soit un bulldozer ?
Alors, ça c'est, je dirais, la bienveillance et l'observation des parents qui vont voir comment le caractère de l'aîné et du second se développe dans cette relation fraternelle. Est-ce qu'il y a une rivalité ? Est-ce qu'il y en a un qui veut rabaisser l'autre pour être sûr qu'on lui prend pas la place ? Est-ce qu'il y a l'autre qui essaye de blackbouler pour prendre la sienne ? Ça, c'est vraiment une observation et il faut tempérer, en fait, c'est une question de tempérance.
Avant de faire une première pause, Mario de Binet, j'aimerais qu'on parle du chouchou. Est-ce si grave d'avoir un chouchou ? La plupart des parents se disent qu'il ne faut surtout pas en avoir. et qu'il faut aimer ses enfants chacun différemment et pour ce qu'ils sont. Pourtant, semble-t-il, les parents auraient toujours un petit pincement ou peut-être une facilité relationnelle avec l'un ou l'autre.
Alors, je ferai la différence entre le chouchou et la facilité relationnelle. En effet, on peut avoir une facilité relationnelle avec un ou plusieurs de ses enfants, plus qu'avec d'autres. Par contre, avoir un chouchou, c'est différent. C'est vraiment privilégié, de manière volontaire, la relation avec l'un et avec des manifestations verbales, des actes, des cadeaux qui montrent que vraiment c'est lui qui est privilégié. Et là, pour le coup, ça crée une difficulté et qui peut même être pour le chouchou lui-même. J'ai eu le témoignage il n'y a pas longtemps d'un de mes patients qui dit « Oui, je suis considéré comme le chouchou dans la famille, mais j'en ai marre parce que du coup, tout le monde croit que je m'entends super bien avec maman, que c'est ce que je préfère et ce n'est pas vrai. »
Et puis, on peut avoir une forme de dette à être...
Alors, il y a une forme de... Alors, ça peut être une difficulté pour couper le cordon. Ça peut être une difficulté pour justement faire sa propre vie, parce qu'on se dit, je dois rester fidèle à l'autre, aux parents en tout cas, qui me chouchoutent. Et puis ça peut créer une tension entre les parents, parce que ça peut être le père ou la mère qui chouchoute l'un, et l'autre parent peut dire, mais pourquoi tu privilégies toujours cet enfant-là par rapport aux autres ?
J'ai vu cette expression, il faudrait en fait tout simplement accepter que chaque enfant représente quelque chose de différent pour les parents, que chaque enfant a une place différente dans le cœur des parents.
Alors, de fait...
Pas d'égalité, mais accepter la différence.
Exactement, mais c'est de
pas
fait...
Ni égalité, ni élection, d'une certaine
manière.
Oui,
c'est pas la même chose de naître au sein d'un couple quand les parents ont 25 ans ou quand les parents ont 40 ans. C'est pas la même chose d'être l'aîné ou d'être le troisième ou le huitième. Enfin, de fait, chaque enfant a une place unique au moment où il arrive et dans l'histoire de la vie de ses parents. Et ça, oui, c'est aux parents chacun, en tant que père et mère, de faire ce travail-là.
Vite coupe, vite famille, sur la fratrie, c'est le thème de l'émission Vivante Église. Ce matin, on fait une première pause et puis on vous retrouve, Mario de Binet.
Emmanuel Pella.
Vite coupe, vite famille, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec au micro Mario de Binet, conseillère conjugale et familiale, sexologue, conférencière et formatrice. Sébastien Dex, son compère, s'étant fait excuser en ce début d'année, mais on le retrouvera dans quoi ? 2 mois, c'est ça ? On se voit à peu près tous les 2 mois. Ce matin, donc, le thème de la fratrie, des relations à l'intérieur de la famille entre frères et sœurs. Mario de Binageur commencerait cette deuxième partie par une citation tirée d'un article que j'ai trouvé dans la presse. « Soyez une mère, soyez un père moyen, 12 sur 20 ». On s'était dit dans cette deuxième partie qu'on essaierait de voir la fratrie côté parents. Est-ce que c'est pas une manière de se lancer, que de pas trop se mettre la pression, de se dire on va être moyen plus et puis ça sera bien?
Les parents parfaits, ça n'existe pas. Donc c'est évident qu'il y aura, que quand on est parent, on peut faire des erreurs, on peut ne pas bien percevoir son enfant, se tromper, et du coup passer à côté aussi quelquefois de certains besoins de ses enfants ou de certaines demandes. Et en même temps, on a des réussites. Je pense qu'il faut aussi en tant que parent pouvoir se dire, alors quand je dis réussite, c'est surtout la joie, le bonheur de voir son enfant qui s'épanouit, qui grandit en se sentant bien dans sa peau, qui a le sourire aux lèvres, qui est plein de projets, qui a envie de vivre, voilà, qui est dans son élan de vie. Donc il faut aussi avoir ce regard positif, parce qu'aujourd'hui les parents ne sont pas toujours bien menés, je trouve. On les culpabilise beaucoup en disant vous ne faites pas comme il faut, vous êtes trop sévère, vous êtes trop laxiste, enfin, etc. Chacun fait comme il peut à un moment donné, il avance aussi à son rythme. Et c'est vrai que la parentalité aujourd'hui est un exercice difficile.
Alors, si on devait donner quelques fondamentaux d'une bonne attitude, sans faire la leçon à personne, accompagner une fratrie,
c'est de ne pas chercher, de chercher l'équité. Non pas l'égalité entre les frères et sœurs, mais l'équité. Alors, je prends tout simplement le gâteau, qui fait souvent l'objet de disputes au moment du goûter. Il a une part plus grande que moi, etc. Oui, mais peut-être qu'à 15 ans, il a plus faim que quand il en a 3. Donc l'équité, c'est ça, c'est de se dire quel est réellement le besoin de chaque enfant et comment je vais y répondre à proportion de ce dont il a besoin. Donc oui, je ne donnerai pas la même chose à chaque enfant parce que il n'y a pas les mêmes besoins.
Donc déjà, on peut pas. J'avais lu aussi ce terme, la justice ne peut pas se réduire à l'égalité.
Exactement, ce n'est pas possible. Alors ça, pour les enfants, ce n'est pas toujours facile à comprendre. Il faut souvent attendre qu'ils soient adultes pour qu'ils le perçoivent. Donc ça peut créer des jalousies, ça peut créer des conflits. Et c'est aux parents d'expliquer. Là, pour le coup, il faut verbaliser, expliquer à l'enfant pourquoi il y a telle décision qui est prise pour lui, alors que ça n'a pas été pris pour un autre. Je prends l'exemple de regarder la télé. Pourquoi il y en a un qui va avoir le droit de regarder la télé le soir à 14 ans, alors que l'autre, l'aîné à cet âge-là, n'avait pas le droit. C'est pas juste parce que les parents sont un peu plus cool au fur et à mesure, c'est parce que peut-être il n'y avait pas les mêmes besoins de sommeil, parce que peut-être il n'y avait pas la même facilité à couper l'écran, etc. Donc il faut expliquer à l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un exercice régulier à faire. Ensuite, un des fondamentaux, c'est de faire attention aux projections que les parents peuvent faire sur leurs propres enfants par rapport à leur propre vie d'enfant.
Alors, si vous permettez juste avant les projections, je voulais aller un tout petit peu plus loin à propos de l'équité. J'ai lu aussi cette expression, la vraie justice, c'est quand les besoins de chacun comptent autant que ceux des autres. Laissant entendre que pas seulement, les parents ne doivent pas seulement être attentifs, à être équitables, mais que chacun doit, comment dire, a l'impression que la situation est juste quand il est reconnu dans ses besoins et qu'il comprend ceux des autres aussi.
Voilà, alors il y a deux outils que là je pourrais donner aux parents. Le premier, c'est de faire au moins une fois par an un repas avec leur enfant seul. Et ils font ça avec chaque enfant. Du coup, chaque enfant se sent considéré comme unique et en même temps, il voit que c'est fait pour tout le monde. Donc là, il y a vraiment une équité. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, ce serait de temps en temps d'organiser des petits conseils de famille où chacun est invité à s'exprimer. Alors, je vais prendre ce qui aujourd'hui occupe beaucoup l'espace des familles, c'est les écrans, en disant, on va parler de la gestion des écrans ensemble. Et chacun, suivant l'âge qu'il a, suivant les besoins qu'il a, va pouvoir exprimer. Et les parents, bien sûr, c'est eux qui décident, mais ils vont tenir compte de ce que chacun va dire. Et en plus, chaque frère et sœur aura entendu l'autre. Et ils vont entendre ensemble comment les parents prennent les décisions par rapport à la régulation de ces écrans. Et ça, c'est aussi intéressant comme exercice. Alors, il ne faut pas faire ça tout le temps, mais ça peut aussi aider quelquefois à régler des conflits. Là, ça ne va pas entre vous. On va en parler tous ensemble. Voilà, il y a une espèce de médiation qui se met en place. Et là, il y a vraiment une équité et un principe de justice, parce que chacun a le droit de s'exprimer, d'être entendu, d'être compris dans ce qu'il vit. Et on essaye ensemble de trouver comment faire pour que ça aille mieux.
Donc chacun, du coup, comprend non seulement ses besoins, mais aussi ceux des autres.
Exactement.
Alors les projections, là, il y aurait de multiples choses à dire. C'était aussi donc l'objet de l'introduction, c'est-à-dire quand on parle de ça, tout le monde ayant été enfant, bah, chacun arrive avec, avec ce qu'il est, avec ce qu'il a vécu.
Oui,
ça
alors,
paraît bateau de le dire, mais...
Bah, par exemple, quand on a été l'aîné, on va avoir une façon de voir son aîné tel que peut-être on l'a vécu ou vu. Si on a été le dernier d'une fratrie, son aîné, on peut se sentir un peu désemparé au départ. Quand on a été enfant unique et qu'on rêve absolument d'avoir une fratrie, on peut ne pas comprendre les conflits dans la fratrie en se disant « mais c'est tellement génial d'avoir des frères et sœurs, pourquoi ils se chamaillent ? C'est pas normal qu'ils ne s'entendent pas. » Ça, je l'ai souvent entendu dans mon cabinet. Donc voilà, il y a des représentations, une idéalisation de la vie de famille. Et puis, bah voilà, moi j'ai eu cette place dans la fratrie. Je sais ce que c'est, donc je comprends mieux mon enfant. Ben, pas forcément, en fait, parce que chaque enfant réagit là où il est, avec ce qu'il est. Donc, on ne peut pas s'identifier, et c'est un gros risque, hein, de s'identifier à son enfant par rapport soit à la personnalité, soit à la place qu'il a dans la fratrie. Alors, en plus, quand en couple...
Faut-il s'interdire de se projeter aussi,
parce non, que, il ne faut pas s'interdire de se projeter.
Ça peut quand même aider, en l'occurrence.
Mais en tout cas, il faut être prudent. Voilà, on peut comprendre, on peut dire « oui, j'ai été aîné, je sais qu'en tant qu'aîné, ça peut être quelquefois lourd, donc je peux comprendre que mon aîné me dise « stop, j'en ai marre de m'occuper de mes frères et sœurs ». Je peux l'entendre. Mais par contre, voilà, il faut doser toujours cette identification. Alors, quand on est deux parents, par exemple, deux derniers, on va peut-être avoir plus de mal à gérer les aînés. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que quand dans le couple parental, il y en a un qui a été l'aîné, l'autre le troisième, on peut aussi s'entraider sur justement comment est ressentie la place, qu'est-ce qui se passe quand on a des frères et sœurs au-dessus de soi ou en dessous de soi, etc.
Donc voilà. À vous entendre, les projections, faire mémoire de ce qu'on a été, pourquoi pas, mais il faut laisser une part on va dire, qui est nouvelle toujours dans l'aventure, c'est
exactement, ça ? Exactement, parce que c'est une nouvelle fratrie, de nouveaux enfants, de nouvelles personnalités, et puis on n'est pas dans le même contexte. Il y a un nouveau contexte familial, donc on ne peut pas comparer, ce n'est pas tout à fait la même éducation, les enfants ont peut-être une vie sociale différente, enfin voilà, donc il faut toujours être prudent par rapport à ça. Mais ça peut permettre de comprendre des réactions chez certains enfants. On dit souvent que quand il y a une fratrie de trois, la place du milieu n'est pas facile. Bon, c'est pas vrai dans toutes les fratries de trois, mais c'est vrai que ça peut être une place qui est un peu moins évidente. Bon, ben, s'il y a un des parents qui s'est retrouvé dans cette situation-là, il va pouvoir justement mieux expliquer à l'autre parent ou mieux comprendre ce que l'enfant dit.
Est-ce qu'il n'y a pas une projection sur laquelle on n'a pas beaucoup de prise ? C'est que toute famille a une culture familiale et hérite d'une culture familiale. Ce matin, on avait un chroniqueur qui nous expliquait qu'il allait prendre un congé parental et c'était un homme, donc pour que sa femme puisse faire carrière, que ça soit pas la seule qui interrompe sa carrière. Et puis devant les yeux écarquillés de certains ici, il se demandait un peu où est-ce qu'il avait atterri. Ça, on va pas faire une étude de marché de toutes les cultures familiales. Maillot de binet. En même temps, est-ce que il y a pas forcément mort d'homme pour ça ?
Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'on est, alors d'autant plus aujourd'hui, sur beaucoup de changements par rapport à ces cultures, et ça peut s'entrechoquer. Donc c'est vrai que la manière d'éduquer les enfants aujourd'hui est beaucoup plus complexe, je le disais tout à l'heure, parce qu'on n'est pas dans une répétition évidente d'une culture, d'une éducation familiale et d'une culture reçue. Donc, alors en plus, il y a beaucoup plus de mixité sociale, il y a plus de mixité culturelle, et du coup, vis-à-vis des enfants, ça se répercute. Ça, c'est évident. Alors, il y a le cas des familles nombreuses, où on peut venir d'une famille nombreuse par choix. C'est-à-dire, les parents avaient fait le choix d'une famille nombreuse, mais on peut venir d'une famille nombreuse subie. C'est-à-dire que c'est parce que les enfants arrivaient les uns après les autres et que les parents ont fait comme ils pouvaient avec. Donc là, on a déjà un vécu de famille nombreuse totalement différent avec, en tant que parent, surtout, j'en veux pas de famille nombreuse ou au contraire, j'en veux. Donc voilà.
Passons à la famille nombreuse justement. Avantages et peut-être inconvénients de la famille nombreuse si on doit commencer au sein de la fratrie. Quel est le plus d'être nombreux ?
Alors le plus, c'est quand même de vivre justement une vie déjà entourée, d'apprendre la relation à l'autre. Voilà, ça c'est évident. C'est un magnifique lieu d'expérience, d'expérimentation pour grandir. Et il y a de très belles joies. Voilà, il y a une solidarité, il y a la fraternité, il y a le sens du service, la vie en commun qui s'apprend réellement.
C'est propice au jeu, à la solidarité.
Exactement.
On s'ennuierait moins.
Oui.
Ça favorise l'émergence aussi du sens des responsabilités.
Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un lieu d'apprentissage idéal. Bon. Maintenant, tout n'est pas justement idéal. C'est-à-dire que
les inconvénients, peut-être, ou les travaux.
Alors, les inconvénients, ça peut être déjà, alors pour l'aîné. Pour l'aîné, ça
peut. Faut partager.
Ça peut être compliqué. Alors, le fait de partager, mais surtout la charge de l'aîné, c'est-à-dire qu'il peut être responsabilisé trop vite.
Le petit père ou la petite mère.
Voilà, exactement. Et de prendre en charge les autres trop rapidement. Et du coup, d'avoir l'impression qu'on lui vole à lui son enfance ou son adolescence. Et dans beaucoup de familles nombreuses, il y a des aînés ou deuxième ou troisième qui essayent de vite partir de la maison vers la fin de l'adolescence parce qu'ils en ont assez, quoi. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a certains qui en ont envie. Ensuite, il y a la place du petit dernier, qui peut être le chouchou, comme vous disiez tout à l'heure, mais qui peut être celui, au contraire, qui se retrouve seul avec les parents vieillissants et pour qui ça peut être très compliqué. Et pour qui il peut y avoir un grand décalage parce qu'il n'a pas connu les parents jeunes. Il arrive à la fin d'une histoire parentale, d'une histoire familiale, donc il peut se sentir en décalage par rapport à ce que ses frères et sœurs, ses grands frères et sœurs qui ont peut-être 15 ans de plus ou 20 ans de plus ont vécu. Et ça peut vraiment créer des fossés en fait, dans les fratries.
Il arrive après l'âge d'or.
Il y a un peu ça, et puis il peut ne pas comprendre ce que ses frères et sœurs disent sur les parents. En disant, mais tu sais, papa et maman, ils sont comme ça. Ah bon, mais non, moi pas du tout, c'est pas ce que je vis, etc. Et puis après, eh bien, il y a à chaque place dans les familles nombreuses, des enfants qui peuvent se sentir plus ou moins bien accueillis. Il y en a qui disent, il y a eu deux fausses couches avant moi, moi je me demande ce que je fais là. Après, ça va être, maman, elle en a eu trois en 3 ans. Moi, je suis le troisième de ces trois-là. Elle n'en pouvait plus. Et en fait, elle n'a pas pu faire attention à moi. Je n'ai pas eu ce dont j'avais besoin. Enfin, voyez.
Et puis, c'est une charge quand même quand les deux parents sont obligés de travailler.
Exactement.
Ça fait quand même une intendance. On a beau avoir peut-être 4 bras et 4 jambes. Et ça fait quand même du monde à choyer, non ?
Voilà. Donc, ça fait... Y a, comme on disait, chaque enfant est unique. Donc, chaque enfant a ses besoins. Donc, dans une famille nombreuse... les parents ont à se demander comment arriver à rester disponible et attentif à chaque enfant. Alors, il y a des familles nombreuses où les mères font le choix de ne plus travailler justement pour avoir cette disponibilité au maximum. N'empêche qu'il y a besoin que le père soit aussi disponible.
Et puis, il faut pouvoir se le permettre.
Il faut pouvoir se le permettre financièrement, matériellement, etc. Donc, bon, après, c'est un ressenti... personnel toujours, dans les familles nombreuses, parce que ça peut être compliqué d'être en famille nombreuse, comme ça peut être compliqué d'être enfant unique. Il y a beaucoup d'enfants uniques qui ont souffert d'être seuls. Donc, il n'y a pas de situation idéale. C'est toujours comment chacun va pouvoir le parler au sein de la famille et qu'un enfant puisse dire à son papa et sa maman, écoute, là, moi, j'ai l'impression que tu ne fais plus attention à moi. Et ce n'est pas simple pour un enfant d'aller dire ça à ses parents quand il a l'impression que les parents sont débordés parce qu'ils ont 6 enfants et qu'ils n'ont pas de temps, quoi.
En tout cas, entendre les enfants uniques, c'est quand même d'abord une chance et un trésor que d'avoir des frères et sœurs.
Oui. Ah oui, beaucoup d'enfants uniques disent combien ça leur a manqué, surtout ceux qui n'avaient pas non plus de cousins ou qui avaient une vie sociale peu développée. Et ils, surtout à l'adolescence, ils vont avoir besoin d'avoir une vie sociale importante pour pallier à cette solitude ou cet ennui.
On finit cette deuxième partie en parlant des familles recomposées. À chaque fois, on n'est pas exhaustif, évidemment. Dans la fratrie, qu'est-ce que ça amène comme situation particulière dont il faut parler ?
Alors, il y a plusieurs cas de figure de familles recomposées. Il y a les familles recomposées où chaque parent arrive déjà avec les enfants d'un premier ou d'un deuxième lit. Et là, il faut arriver à créer justement une forme d'unité. Avec des éducations différentes, avec des histoires différentes et des blessures qui sont présentes.
Il n'y a pas forcément 2 clans qui se créent. Hein. Je recite cette expression, frère de lait, frère d'armes. En plus, dans l'adversité, on doit se serrer les coudes.
Il y a des familles dans lesquelles c'est très compliqué et d'autres pour lesquelles ça se passe très bien parce qu'il y a des amitiés vraiment qui se créent entre ces enfants-là. Après, il y a...
Les amitiés, c'est un mot que vous n'avez pas utilisé jusque-là.
Oui, mais ce sont des amitiés.
Là, on parle de relations fraternelles plutôt. Non ?
Oui, mais ce sont des amitiés. Alors, l'amitié, elle concerne tous les amours, même entre un homme et une femme. Mais entre dans des familles recomposées, entre des enfants comme ça qui viennent de lits différents, il peut y avoir de réelles amitiés qui deviennent fraternelles. Voilà.
Après, le fait de ne pas être frère et sœur peut aussi favoriser l'amitié.
Exactement. Après, il y a les familles recomposées dans lesquelles les conjoints ont un nouvel enfant. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un demi-frère et un demi-sœur pour chacun. Et donc là, il faut, je dirais, s'approprier cette nouvelle fraternité qui n'est pas choisie, qui peut être vécue comme subie, comme injuste. Moi, j'avais déjà pas envie que papa et maman se séparent. Et alors, en plus, on m'impose un nouveau frère ou un nouvel, ou une nouvelle sœur. Donc, pour certains, ça va être compliqué.
Et
pour d'autres,
en général, on vous demande pas votre avis aussi.
De toute façon, ça, pour le coup, c'est un peu normal. Mais c'est compliqué, voilà. Après, au contraire, pour certains, ça peut être une occasion de trouver sa place. C'est-à-dire, quand je vais chez papa ou chez maman, j'ai mon petit frère, j'ai ma petite sœur, et j'aime m'en occuper, j'aime être avec, je serai pas toute seule ou tout seul, etc. Donc ça. Voilà, c'est un vécu différent.
J'ai,
et puis après,
j'ai pas compris. C'est-à-dire que quoi ça aide à trouver sa place d'avoir un demi-frère ou une demi-sœur ?
Quand on est dans des familles recomposées et que les parents ont chacun eu des enfants, aller chez le beau-père ou la belle-mère, ça peut être compliqué. Et quand il y a un nouvel enfant qui arrive, ça permet de trouver sa place. Voilà, par rapport à ce petit frère ou cette petite sœur. Voilà.
Parce qu'on a un rôle tout d'un coup.
Exactement, un rôle, une responsabilité, et du coup, on se sent. Ça permet une inclusion plus facile. Voilà. Après, il y a le. Quand je parlais tout à l'heure donc des fratries qui se réunissent alors qu'elles ne sont pas du même lit, on va appeler ça des quasi-frères, quasi-sœurs. Et donc, ça, c'est assez nouveau, hein, sociologiquement. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve dans des familles.
Dites-moi, c'est quelle situation ?
Quand on se retrouve ensemble, mais qu'on n'est pas du même lit.
D'accord, on n'est pas des mêmes parents.
Voilà.
Mais c'est les demi-frères et demi-sœurs dont vous parliez tout à l'heure, non ?
Non, les demi-frères et demi-sœurs, c'est qu'il y a un des deux parents qui est commun.
Ah d'accord, là c'est quand on n'a rien en commun.
Voilà, quand on a rien en commun, donc ça s'appelle quasi-frère, quasi-sœur. Donc ça, c'est une nouvelle situation, ce sont des nouvelles situations familiales.
Donc papa et maman ont chacun été mariés avant, ils en ont eu deux chacun, et puis on change les deux parents.
Exactement.
Non, on change un des deux parents.
Voilà, tout à fait. Mais quelquefois, les deux aussi, parce que ça peut se faire de tous les côtés. Donc, il y a des enfants qui se retrouvent avec plusieurs quasi-frères, quasi-sœurs. Donc là, il y a un nouvel apprivoisement. C'est pour ça que je parlais avant d'être dans la fratrie. Il y a d'abord une relation d'amitié à créer. Parce que là, il n'y a pas de réelle fratrie. C'est une fratrie à créer. Et c'est ce qui se passait autrefois avec les frères de lait ou les sœurs de lait, parce que c'était la nourrice qui était commune. Mais ce n'était pas une réelle fratrie, il fallait la créer. Voilà. Et ça, c'est un exercice difficile, aussi bien pour les enfants que pour les parents.
Et alors, si on a dit qu'il ne fallait pas que les parents se mettent la pression et qu'il fallait qu'ils visent le 12 sur 20, est-ce que les enfants, il faut qu'ils visent aussi le 12 sur 20 dans toutes ces situations bien compliquées ?
Bah alors,
quand on a un cœur d'enfant, on ne vise pas du tout le 12 sur 20, on vise le 30 sur 10.
Je pense qu'on ne vise rien du tout quand on est enfant, on essaye de faire ce qu'on peut, ce qu'on découvre.
On a soif, on se raisonne moins.
Soif d'amour, soif de vie, ça c'est sûr. Après, je dirais que ça va dépendre de l'âge. Un enfant de 5 ans, il n'y a pas à attendre grand-chose. Par contre, quand il a entre 12 et 18 ans, on peut attendre de lui un petit peu plus en termes d'implication, d'effort, de compréhension des situations.
On fait une deuxième pause, Mario de Binet, et puis on va à nouveau vous retrouver pour continuer à parler du thème de la fratrie. On verra la fratrie à l'âge adulte, quand on fait des choix de vie différents, comment favoriser l'unité familiale, et quand les parents vieillissent ou quand ils décèdent, on va dire comment la fratrie traverse-t-elle ces étapes. Thank you.
Radio Présence sur le COS 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vite couple, vite famille, c'est le thème pour rappel de l'émission Vivante Église de ce matin avec Marie-Aude Binet, conseillère conjugale et familiale et sexologue et chroniqueuse à cette antenne. Marie-Aude Binet, on s'est dit dans cette dernière partie, après avoir vu la fratrie côté enfant dans la première, dans la deuxième côté parent, essayer de la revoir côté enfant, mais une fois devenu adulte. Donc je me disais pour vous lancer qu'on pouvait faire mémoire d'une invitée qu'on a eue. Alors ceux qui écoutent très assidûment l'émission peut-être s'en souviendront, Claire Bressolette, cette femme, cette philosophe donc qu'on a reçue je crois il y a 2 ou 3 semaines, un vendredi, qui a accompagné sa maman âgée malade, et une fois sa maman décédée, entre frères et sœurs, ils ont décidé qu'elle aurait l'usufruit de la maison familiale pour en faire un lieu d'accueil qui est aux portes de Toulouse, un lieu d'accueil culturel et spirituel. Lors de l'émission, je me disais, c'est quand même, c'est beau, les frères et sœurs ont réussi à s'entendre, là où normalement chacun aurait pu demander sa part du gâteau, ce qui peut être tout à fait légitime. Cette unité familiale, en fait, dans le fond, on a l'impression que tout le monde en rêve d'avoir une unité familiale, une belle et grande unité familiale. Alors faut-il rêver d'une unité familiale pour commencer ?
Alors, en rêver, peut-être pas, mais en tout cas, l'avoir en idéal, c'est toujours bon d'avoir cet idéal, parce que ça guide et ça permet de créer, de faire, d'avoir une créativité pour ça, dans cet objectif-là. Maintenant, des familles comme les Bressolettes, il y en a d'autres. Il y en a qui vont faire ce choix, par exemple, quand il y a un enfant handicapé, quand il y a un des frères ou sœurs qui vit une situation matérielle très compliquée, il va y avoir une solidarité interne. Donc ça existe, hein, et ça peut exister autour d'une entreprise aussi, autour d'un commerce. Donc il y a en effet des familles qui trouvent des ententes. Alors, là, c'est quand même matériel, mais ça veut dire que derrière, il y a aussi une entente de générosité, de cœur, qui permet matériellement de le mettre en concrètement, quoi.
Est-ce qu'il y a des grandes règles pour faire en sorte que l'unité soit familiale, une fois adulte, existe ?
Alors, des règles...
Vous avez des recettes miracles ou pas ?
Alors, des recettes miracles, je n'en connais pas. Voilà. Sinon, je pense que beaucoup de familles ne seraient plus éclatées. Mais il y a d'abord la volonté des parents et la manière dont eux-mêmes en couple ont vécu.
C'est ce que j'allais vous dire, en fait. Souvent, ce que j'ai entendu dire, c'est que la première unité, c'est l'unité du couple. En
exactement.
Fait. C'est ça qui donne envie.
Exactement. Donc il y a cette unité du couple, la manière dont le couple, les conjoints se sont aimés, se sont regardés, se sont pardonnés, ont eu de la gratitude, ont cherché ensemble à construire quelque chose. Cette notion de construction, elle est importante pour les enfants. Quand ils sentent qu'il y a concrètement quelque chose qui rayonne de leurs parents, ça donne envie, en fait. Hein, c'est... C'est comme quand vous avez un beau chêne, il est magnifique, et que si vous avez envie, c'est d'aller vous asseoir dessous, de vous mettre à l'ombre. Mais c'est pareil, en fait, si l'amour conjugal a donné envie aux enfants de s'y réfugier, d'y être bien, eux-mêmes vont avoir envie de vivre de ça.
Et donc, puis, une fois adulte, du coup, vous aurez toujours envie de venir chez vos parents, peut-être aussi pour vous mettre à l'ombre du chêne.
Alors, il y a ça aussi, mais ça donnera aussi envie d'être fécond soi-même de cette manière-là. Voilà, le but, c'est pas non plus que les parents captent leurs enfants pour qu'ils restent sous le chêne. C'est, voilà, allez vous-même en planter d'autres, voilà. Mais ça donne envie d'eux, en tout cas. Donc, il y a déjà ça, cet exemple conjugal. Et puis après, bah, c'est la manière, hein, quand on parlait d'équité tout à l'heure, la manière dont les parents vont, en même temps, éduquer ensemble leurs enfants, tout en tenant compte des personnalités, des individualités et de chaque personne.
Est-ce qu'il faut favoriser des cultures familiales fortes ? Je vous disais ça en préparant l'émission. Parfois, on a l'impression que les familles qui sont des clans, où il y a des valeurs en fait, très fortes, très claires, très nettes, bah, ces clans, ils peuvent aussi faire rêver d'autres. Ils se disent, ils sont toujours ensemble, il y a un côté tribu, ils passent des Noëls, des vacances. Bref, personne ne déroge et au fond...
Alors, je vais vous prendre un exemple que j'ai entendu ce matin aux actualités, en fait. C'est dans la famille princière anglaise. Le prince Harry et sa femme ont décidé de quitter le clan et d'aller s'installer, je crois, au Canada. Parce que, voilà, ils n'ont plus envie d'être contraints par tout ce qui leur est demandé de vivre. Ben, aujourd'hui, ces clans deviennent de plus en plus compliqués. Parce que chaque couple a envie de vivre sa propre aventure. Et il est compliqué de vivre sa propre aventure quand on doit continuer à respecter les règles du clan, à avoir la même culture du clan. Donc le risque du clan, c'est que l'un ou l'autre s'en sente exclu parce qu'il ne veut pas rester dans ces règles-là en grandissant et en devenant adulte. La richesse de ces clans, c'est de créer justement un lieu refuge, un lieu de stabilité, un lieu de sécurité, où on sait que là, il y aura toujours quelqu'un pour nous accueillir. Voilà. Donc c'est comment maintenir ce lieu d'accueil tout en laissant la liberté à chacun de gagner son autonomie. Et ça, c'est pas si évident que ça, suivant la culture familiale. Et il y a des cultures où il y a vraiment, c'est le clan en priorité.
On y reviendra, hein, parce que ça peut faire aussi un bon thème d'émission. Pour le temps qui nous reste, parlons du vieillissement des parents, voire du décès. On peut avoir eu une vie de famille, on va dire 12 sur 20, 14 sur 20, enfin l'expression est très mauvaise, mais bref, avoir une unité familiale. Et puis quand les parents vieillissent, que la charge devient plus importante, quand l'un ou l'autre décède, quand l'heure de l'héritage arrive, là ça se complique. Vous voyez ça dans votre cabinet ? Comment vous tâtonnez,
oui,
j'imagine, sur ces
Alors,
sujets ?
Très régulièrement, en fait, il y a déjà rien que dans le vieillissement. Chaque enfant va vivre le vieillissement de ses parents de manière différente. Il y en a qui vont l'accepter, d'autres le refuser. Et souvent, les derniers refusent le vieillissement de leurs parents. Beaucoup plus.
Pourquoi ?
Parce que, quelque part, ils n'ont pas eu le temps de vivre suffisamment avec eux, parce qu'ils se sentent plus l'âme du protecteur ou du sauveur. Donc, ils ont du mal à voir souffrir leurs parents. Après, il y a aussi la différence aujourd'hui des familles éclatées géographiquement. Donc, il y a une forme de... Là, pour le coup, ce n'est pas égal. Il y a peut-être un enfant qui va s'occuper plus de ses parents que les autres parce qu'il est plus proche ou parce qu'il accepte davantage de faire les allers-retours. Et après, il y a les conditions financières. Il y a des enfants qui vont avoir plus de moyens que d'autres pour aider les parents financièrement. Voilà, je connais une famille où c'est le gendre qui a racheté la maison des parents pour leur permettre d'y rester parce qu'ils n'avaient plus les moyens, eux, de payer leurs charges. Voilà, mais du coup, ça a créé une tension entre les autres frères et sœurs.
Est-ce que les enfants doivent quelque chose à leurs parents ? Est-ce qu'il y a une obligation à l'égard des parents ou des beaux-parents dans la législation française ?
Alors, il y a l'obligation, je dirais, morale, voilà, mais au-delà de ça, en termes de devoirs, il n'y en a qu'une, c'est celle, justement, pouvoir subvenir aux besoins du parent qui ne peut plus, par exemple, se nourrir, se loger. Ça, oui, un enfant est obligé de subvenir aux besoins de son parent.
On appelle ça l'obligation alimentaire.
Exactement. Et c'est comme le devoir que les parents ont vis-à-vis de leurs enfants. C'est exactement le même. Et les parents peuvent faire un procès à leur enfant si l'enfant refuse.
Par contre, vous n'attendez pas, on ne vient jamais vous voir, vous ne pouvez pas faire de procès.
Là, voilà, c'est compliqué, hein, voilà. Mais en tout cas, ce sont des situations qui arrivent, hein, qui existent. Hein, voilà, les parents peuvent se, entre guillemets, se retourner vis-à-vis de leur enfant en disant « là, j'ai besoin que tu m'aides financièrement ». Alors, ça se voit de plus en plus avec les EHPAD, où on demande souvent des avances sur succession aux enfants, en fait. Voilà, ça sera déduit de la succession au moment du décès. Et après, il va y avoir donc, le décès en lui-même.
Alors, j'allais y venir, oui, c'est
voilà,
ça.
Le décès en lui-même qui peut aussi... alors là, ça peut être l'explosion.
C'est souvent très compliqué quand même.
Voilà. Et souvent, en fait, c'est là que ressortent le plus les tensions qui n'ont pas été résolues lors de l'enfance ou de l'adolescence entre les frères et sœurs. Et tonton, t'as toujours été le chouchou.
On commence à se parler, en fait, dans le fond, c'est ça?
Bah, quelquefois, on se parle plus. On se parle plus du tout, jusqu'à certains qui ne viennent pas aux enterrements et qui ne veulent pas voir le notaire non plus, qui se font représenter. Enfin, ça peut aller très très loin. Donc, il peut y avoir des conflits très très forts et en fait, qui sont juste la résurgence de ce qui se passait autrefois. Mais ça prend des proportions bien plus importantes parce que les gens sont adultes et ils se crispent beaucoup plus émotionnellement, c'est dramatisé et il peut y avoir de réelles souffrances. Alors je vous dis, c'est le préféré, mais ça peut être, de toute façon, moi, on ne m'a jamais considéré, voilà, le mal-aimé ou le privilégié, voilà.
Mariotte Binet, à suivre ces émissions là qu'on fait de temps en temps, et puis il y en a d'autres à cette antenne, hein, je pense entre autres aux émissions de Nathalie Cardon, auxquelles vous participez aussi de temps à autre. On peut se dire, formidable, elle nous ouvre des portes, pourquoi pas, mais se sentir soi-même bien incapable ou handicapé d'arriver à parler de la relation, soit de la relation que l'on a en couple, soit des relations avec les enfants. Donc là, au sortir d'une émission comme ça, ne pas oser faire le pas de parler avec ses parents de cela et vice versa. Mmh. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui sont moins surdoués que vous en la matière?
Alors, c'est évident que dès qu'il y a un lien affectif fort, il est difficile de parler et surtout quand il se sont installés des tensions, des conflits, des malentendus ou des non-dits. Bon, en thérapie, c'est très régulier hein, que j'accompagne ces situations-là et je ne peux qu'encourager les personnes à aller vers leurs parents, vers leurs frères et sœurs avec qui il y a ces tensions. Parce que, c'est radical ce que je dis, mais une fois que la personne est décédée, on ne peut plus rien, c'est trop tard. Et on le garde toujours pourtant. Donc c'est dommage parce que ça altère la relation, mais ça altère sa propre vie, on se sent mal. Alors il peut y avoir des pardons à donner, mais au-delà de ça, ben, cette relation-là, on ne l'a peut-être pas choisie. Parce que quand on arrive dans une famille, on n'a pas choisi la famille dans laquelle on arrive. Mais par contre, on peut choisir que ça se passe bien. Ça, c'est de la responsabilité de chacun. C'est un choix et là, c'est un choix d'amour. C'est un choix de don. Et ben, la famille reste le premier lieu du don. Voilà. Et je dirais, ben, on peut se rapprocher. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où il y a ce choix de se réconcilier en famille, d'aller vers l'autre alors que c'était difficile. Parfois, ça peut passer plutôt par une lettre, si le dialogue oral est difficile.
Voilà, on peut choisir que ça se passe bien. Très belle expression. Merci beaucoup, Mariotte Binet, d'être venue au micro de Vivante Église. Et rendez-vous est presque donné, donc dans 2 mois, où vous retrouverez votre compère Sébastien Dext. Merci beaucoup.
Merci.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.